On est en train de continuer notre étude sur la foi. Aujourd'hui, pendant les prières, l'autre bord, j'ai entendu qu'on a parlé du sujet qu'on va voir aujourd'hui. Ça parle parce que la foi, c'est sûr qu'on part en victorieux, puis on est content, on a la victoire, on va conquérir, puis on va aller de l'avant. Mais la vie de la foi, il y a aussi un côté qui est, c'est pas un côté obscur, c'est un côté quand même béni, même si ça ne fait pas de notre affaire personnellement. La Bible parle du raffinement et de l'épuration de notre foi par les épreuves. Dieu se sert de tout ce qui se passe autour de nous pour travailler notre foi. Puis il y a des raisons là-dedans. Puis on va en voir quelques-unes. Pourquoi qu'on doit passer par là? On veut toute une vie de foi, de bénédiction, d'abondance, des richesses. On voudrait tout par la foi, comme qu'on entend les prédicateurs aux États-Unis. Ils disent, marche par la foi, puis Dieu va te rendre millionnaire, puis tu vas juste avoir la santé. Tu n'auras jamais de maladie, tu n'auras jamais de problème. Tout va aller bien avec Jésus. J'ai déjà entendu cela. Mais le seul hic, c'est que c'est pas vrai. Oui, on peut mettre notre confiance dans toute cette illusion-là, mais c'est pas écrit dans la Bible que ça va être comme ça pour tous les chrétiens. Pourquoi les chrétiens vivent-ils des épreuves? Pourquoi qu'il nous arrive des choses difficiles à traverser? Il y a toutes sortes de belles raisons, puis c'est important que ça soit là, qu'on comprenne cela, parce que quand on vit l'épreuve, c'est-tu parce que Dieu m'aimait plus puis qu'il m'a rejeté? Il y a un plan Dieu dans tout cela, puis il sert de ce qu'on vit. Des fois, c'est des épreuves. Pour raffiner puis épurer notre foi, pour qu'elle devienne pure, parce que c'est quelque chose de précieux, la foi. Pourquoi Dieu permet-il que les chrétiens souffrent et qu'ils aient des moments difficiles dans leur vie? Pourquoi Dieu permet la maladie? Pourquoi Dieu permet la mort? Pourquoi Dieu permet les épreuves physiques et monétaires, des épreuves dans la vie de couple, des épreuves au travail, des épreuves dans la santé? Ça, c'est une grosse affaire. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent par la santé. Pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses-là? Il y a toutes sortes de belles raisons. C'est ça qu'on veut regarder. Est-ce vrai que lorsqu'une personne accepte le Seigneur, que tout va aller bien dans sa vie? Ça serait beau, mais est-ce que ça a été bien dans la vie de Jésus?
Non.
Les épreuves sont comme la pluie, le vent, le torrent qui se jette sur toutes les maisons pour en éprouver la solidité. On voit ça dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Jésus se sert de cet exemple-là pour dire, toutes les maisons sur la terre, mais en parlant des vies des personnes, vont être éprouvées par la pluie, le vent et le torrent. Je vais vous lire ce passage-là. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, puis qui ne met pas en pratique, se ressemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Ce que je remarque, la première chose que je remarque, parce que Jésus est en train de nous parler comme il compare la maison ou ces maisons-là comme étant la vie d'une personne. On est en train de bâtir notre vie. Veux, veux pas, on prend des décisions chaque jour, on grandit. Soit qu'on apprend à bâtir sur quelque chose de solide ou sur quelque chose qui n'a pas de solidité. Ce qu'on remarque, c'est que les deux maisons ont reçu les vents, la pluie, le torrent. La tempête se jette sur tout le monde. Tout le monde vit des épreuves, des combats, des difficultés. La vie, on vit dans une terre qui a été maudite par Dieu. C'est à force de peine qu'on va tirer la nourriture tous les jours de notre vie. C'est les enfantements qui sont difficiles. La mort nous attend. Les maladies, etc. On n'a pas accès à l'arbre de vie pour avoir la santé. Veux, veux pas, ça va pas bien. Tout le monde, il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il n'a jamais eu une épreuve où ça a toujours été bien. Puis on peut pas se faire l'illusion qu'on va vivre sur cette terre dans une vie qui est 100% facile, sans aucun problème, sans aucune épreuve. Jésus a dit que les deux maisons ils ont reçu les tempêtes de la vie. Mais il y a une différence entre ceux qui bâtissent leur vie par la foi, bâtie sur les paroles de Dieu, puis de vouloir la mettre en pratique, sa parole, ou de ceux qui la mettent pas en pratique. Parce qu'il dit... La réussite ou la ruine, c'est pas les épreuves puis les choses qu'on a difficiles qui fait qu'on est dans la réussite ou dans les épreuves qui nous mènent à la chute. C'est la fin de notre vie. Où est-ce qu'on va être? Est-ce que dans la fin de notre vie, c'est une ruine ou notre fin de notre vie, c'est le commencement de la vie éternelle? C'est là qu'est le plus important. Il n'a pas dit que ceux qui marchaient sur sa parole, il n'y aura pas d'épreuve. Ils ont dit même ceux qui bâtissent sur la parole vont recevoir les vents. Fait qu'il faut pas s'étonner si ça y vente dans notre vie. On est tous appelés en tant qu'être humain, on est tous des êtres vivants, ça va brasser dans notre vie par moment. Pas tous les jours, mais par moment. Puis Dieu permet que ça soit ainsi. Puis Jésus est venu comme un homme comme tout le monde, puis il a subi lui-ci les assauts des vents, puis de la pluie, puis du torrent qui s'est jeté sur sa maison. Sauf que lui, il a réussi. C'était pas la ruine. Ça ne l'a pas jeté à terre, ça ne l'a pas fait abandonner Dieu. Il est encore fidèle dans la foi, malgré ce qu'il a pu vivre. Il n'y a rien de plus précieux que les épreuves d'un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde. On peut se faire des idées comme moi, pour ça serait une chose précieuse si j'aurais un beau char. Il y en a d'autres, c'est une belle maison. Il y en a d'autres, c'est une belle femme. C'est vrai que c'est un cadeau de Dieu. C'est des cadeaux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus précieux. Dieu, lui, considère les choses différemment. Lui, il considère que les épreuves que nous sommes en train de vivre parce que nous bâtissons notre vie sur le roc, puis ces vents-là, puis ces tempêtes-là qui viennent sur notre vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Allez lire 1 Pierre 1:7. Ça nous dit l'épreuve de votre foi. Des épreuves, la cause que vous bâtissez sur le roc, il y a des épreuves, il y a même plus d'épreuves quand tu es chrétien. T'en as plus de combats, plus de choses à confronter. T'as le monde à confronter, t'as ta famille à confronter. Surtout si t'es le seul qui est chrétien dans ta famille, tu vas en avoir plus de difficultés. Tu peux avoir, il y en a qui ont perdu leur famille complètement. Il y en a que c'est leur femme ou leur mari qui est parti parce qu'elle a commencé à vivre la foi. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a même qui ont perdu la vie parce qu'ils ont commencé à vivre la foi. Mais il dit, l'épreuve de votre foi. Tout ce que vous traversez dans votre foi, tout ce que vous vivez de problèmes, de difficultés, de pluie, de vent, de torrent sur votre vie, mais il dit ça là, c'est plus précieux que l'or périssable. L'or, oui, le monde tripe sur l'or, ils se mettent des bijoux en or, des colliers en or, des boucles, ils veulent être en or, puis quand ils marchent à la rue, ils marchent d'une manière fière parce qu'ils ont toutes leurs médailles, puis leurs bagues dans les doigts, puis même dans les orteils, puis des fois même passer un peu partout. On aime ça, à marcher avec des morceaux après nous autres, si on pense que ça donne de la valeur. Mais les épreuves dans votre vie de chrétien, c'est encore plus grand, plus précieux, que tout l'or qu'il y a dans ce monde. L'or dans ce monde, elle a été épurée pour qu'elle soit précieuse aux yeux du monde. Ils l'ont chauffée, ils ont enlevé tout ce qui n'était pas bon dedans pour qu'elle soit encore plus pure. Il y a du 10 carats, il y a du 14 carats. Puis même si tu arriveras à faire du 100 carats, pour le gars qui va payer le gros prix, là, c'est la bague en or, un gros morceau, mais tellement chauffé qu'il en aura juste un petit morceau, puis ils vont dire que c'est du X carats, puis c'est pas de plus précieux, puis plus pur que ça. Mais pour lui, c'est précieux, ça a une valeur. Mais pour Dieu, il est en train de nous dire que toutes tes épreuves, tes difficultés, puis tes combats, tes luttes, tes souffrances, tout ce que tu vis de difficile, c'est encore plus précieux que tout l'or qu'il y a dans ce monde. Parce que ça a un résultat. Celui qui a une grosse bague en or, le monde le regarde, puis là, il se promène avec sa bague. « Wow, t'as donc bien une belle bague. » Ça a de l'air, ça flash pour un moment, là. Ça a de l'air beau, mais pour moi... Mais qu'on arrive l'autre bord, ceux qui ont vécu les épreuves, les combats, les difficultés pour le nom de Dieu, puis qui ont persévéré dans la foi. Leur foi a été travaillée, pareil comme l'or, est chauffée pour devenir pur. Mais notre foi est chauffée par les diverses épreuves. Quand qu'on va arriver l'autre bord, vous n'avez pas... Ben, poussez votre imagination là de voir ce qui serait la plus belle apparence que vous allez avoir rendu hein, l'autre bord à cause de ce que vous avez vécu pour le Seigneur, mais c'est encore rien pour la réalité. Il dit, les épreuves du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça se calcule pas la grandeur de la gloire qu'on va avoir pour les légères afflictions du moment présent. Tu manges une claque d'en face, ça a de l'air insignifiant, c'est une légère affliction, mais rendu l'autre bord, c'est un poids éternel de gloire. La gloire, c'est de se faire féliciter, de se faire regarder, puis de se faire dire des belles paroles pour nous élever. Dieu va élever, il va donner de la louange, Dieu va louanger lui-même ses serviteurs. Puis il va nous élever de façon à ce qu'on se sente, waouh, on mérite pas ça, mais on va voir que ça n'a pas de mesure commune entre le petit peu de souffrance qu'on a vécu ici comparé à la gloire qu'il va y avoir à l'autre bord. Les épreuves sont le moyen de Dieu pour rendre notre foi plus pure et digne de recevoir les récompenses. Les épreuves sont en train de chauffer notre foi. Au début, peut-être que là, on réagit un peu humainement parlant, là, quand tu es nouveau chrétien, là, il t'arrive une épreuve, puis tu réagis encore à ton ancienne manière. C'est pas toujours, la foi est pas toujours encore chauffée comme il faut, mais à force d'en avoir, on prie, puis on demande au Seigneur de nous changer, mais il sert de ça, des épreuves, pour que on apprenne à s'accrocher à lui, puis que lui vienne nous modeler, puis vient un temps où ce qu'on réagit plus pantoute de la même façon, notre foi nous amène à réagir comme Jésus. Tendre l'autre joue. Il te demande de faire 1 000, tu vas en faire même 2 avec lui. Dieu veut nous changer, mais ça paraît peut-être insignifiant aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est plus important que l'or, parce que lui, il va souligner toutes les petites affaires que vous avez vécues, les combats, puis le résultat positif qu'il va avoir parce que vous allez avoir eu la victoire dans vos épreuves. Vous allez persévérer, puis l'épreuve va vous rendre meilleur. Amen! Gloire à Dieu! Quelles sont les attitudes et les sentiments que nous devrions avoir au milieu des épreuves? Comment je dois les prendre, les épreuves? Là, la Bible est en train de me dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il y en a qui vont dire, je suis pas prêt à dire ça. Mais quand on dit, on n'est pas prêt à dire ça, c'est parce qu'on comprend pas comment Dieu voit cela. Mais quand tu te laisses révéler les choses, puis tu les saisis, là, que tu les comprends, mais là, tu commences à voir la vie autrement. Je ne vous dirai pas les autres versets de suite, je vais attendre. Dans Jacques 1, les versets 2 à 4, comment est-ce que Jacques nous demande de regarder les épreuves? Moi, si je le demande à la plupart du monde qui ne connaissent pas Jésus, une épreuve, mais quand tu as une épreuve, la première chose que le monde va faire, ils vont lâcher une coupe de sac, puis après ça, ils vont se mettre à maudire, puis après ça, ils vont se mettre à crier fort, puis à parler peut-être mal à leurs femmes, puis à leurs enfants, parce que là, ils transmettent leur frustration puis leur colère. Puis ça, c'est s'ils décident pas de se revenger contre la société ou contre ceux qui font du mal. Humainement parlant, on est porté à réagir à l'épreuve avec méchanceté. Mais quand t'es chrétien, c'est pas pareil. Tu comprends des choses, puis tu sais qu'il y a de quoi de bénissant dans l'épreuve. Dans Jacques, il nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » J'ai dit un amen à cela.
Amen.
Regardez comme un sujet de joie complète. Ça devrait être la fête lorsqu'on est éprouvé. Contrairement, comment est-ce qu'on peut réagir humainement parlant? Être heureux que ça aille mal parce qu'il y a de quoi de bénissant qui vient de Dieu pour ceux qui ont été éprouvés. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, elle va produire quelque chose. Elle est commencée à devenir différent à cause des épreuves. Notre foi a besoin des épreuves pour venir différent. Elle se raffine, elle se fait chauffer, elle devient plus pure. Plus qu'on se fait chauffer, c'est comme les saucisses are great. Plus que le monde en mange, parce que plus qu'ils sont fraîches, puis plus qu'ils sont fraîches, plus que le monde en mange. Plus que tu te fais chauffer dans ta vie de chrétien, plus que tu deviens raffiné si tu réagis de la bonne façon. Puis là, il dit, l'épreuve de ta foi. Ça sous-entend que cette épreuve-là, tu l'aurais peut-être pas eue si tu n'étais pas dans la foi. Ça sous-entend, c'est à cause que tu es dans la foi que tu as vécu cette épreuve-là. Dieu, à partir du moment que tu mets ta foi en lui, il commence une œuvre de changement parce qu'il veut, lui, il veut t'emmener à un point que toi, tu connais pas encore. Il veut t'amener à être comme Jésus. Puis il va servir des épreuves que tu es en train de vivre pour pouvoir t'amener à être. Toi, tu sais pas, Seigneur, lâche-moi. Tu sais, j'ai entendu des chrétiens qui veulent plus demander à Dieu de la patience parce qu'ils savent que s'ils demandent de la patience, ils vont avoir des épreuves qui vont pour les rendre patients. Ils veulent pas les épreuves. Ils voudraient la patience, mais on a besoin de l'épreuve pour être patient. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ça prend de l'amour.
Ça prend de l'amour, ça prend des ingrédients, puis c'est Dieu qui sait que ça prend. Mais si on y demande, amène-moi là, on veut devenir comme Jésus, puis on veut être riche dans le ciel. Qui veut être pauvre dans le ciel? Peut-être j'en connais pas. Moi, je veux le maximum. Amen. On veut le maximum de ce que Dieu veut nous préparer. Bon, mais lui, il sait comment nous faire passer notre vie, puis il faut être capable de voir sa main dans nos épreuves pour qu'il nous amène. Comme là, il dit, l'épreuve de votre foi va produire de la patience. Puis il faut que ta patience, elle accomplisse son œuvre pour que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Ça, c'est le but. En attendant, oui, parce que la minute que tu avances, on voit qu'on grandit, puis ça nous fait plaisir de savoir que Dieu a changé des choses. On veut qu'il les change. Oui. Un chrétien ne doit pas être surpris de la pression qu'il vit depuis qu'il s'est engagé à suivre le Seigneur. Puisque nous avons part aux souffrances de Christ. Avant d'être chrétien, j'avais moins de problèmes qu'après que j'ai accepté le Seigneur. Puis j'en connais plusieurs que ça a été comme ça, qu'ils ont eu plus de combats, pas moins. Plus de combats après d'être chrétien que qu'est-ce qu'il y avait avant. Avant, ils se laissaient aller. On se laissait aller à tout ce qui se passait devant nous. Puis ça nous affectait pas, puis on s'en souciait pas. On n'avait peut-être pas la paix, mais on avait toutes sortes de plaisirs, de satisfactions passagères, puis on s'en contentait. Mais on n'avait pas nécessairement des combats, à moins que vous étiez criminel, puis que la police courait après vous. Là, peut-être, vous allez vous sentir encore pire, mais en temps normal, tu sens pas courir par la police, puis tu as quand même une satisfaction terrestre. Mais quand tu viens à Jésus, tu as plus de combats, tu as des combats parce que tu veux changer. Là, tu remets les choses au Seigneur, tes combats contre ton corps, tes combats contre ta famille, tes proches, tes voisins. Puis tu as des combats aussi contre l'ennemi que lui, il t'avait, là, il t'a pu. Puis tu as réussi à sortir de ses griffes par l'aide du Seigneur. Là, il veut essayer de te ramener, fait que tu as des tentations de plus, tu as des combats, des épreuves, des afflictions, toutes sortes de choses pour essayer de nous faire débarquer, de nous faire lâcher la foi. Parce que son but, c'est cela. Nous, on veut pas lâcher, on veut rester ferme jusqu'à la fin.
Amen.
Amen. Là, il nous dit dans 1 Pierre 4, 12 et 13, ça nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ça, c'est les chrétiens, ça. Au milieu des chrétiens, il y a la fournaise qui est là. Puis cette fournaise-là, ça chauffe. Quand ça chauffe, il fait chaud. Quand tu as chaud, ça fond. C'est comme l'or, ça fait fondre. Mais c'est là que t'es prouvé. T'es une épreuve. Puis des épreuves, mais c'est quelque chose que Dieu permet. Une épreuve, c'est pour passer un test. Une épreuve, c'est un test. Quand ils veulent faire un contrôle de qualité à un produit, mettons, tout le monde connaît ça, les tanks à gaz, pour quand tu manques de gaz, tu vas au garage, tu remplis la tank de gaz, des canisses rouges, là, puis ça n'a rien de rien, mais ça l'a passé un contrôle de qualité pour que la résistance soit là, pour que le bidon, une fois que tu as mis le gaz là, qui pète pas dans ton char, puis que là, tout le feu prenne, autrement dit, puis tout. C'est tester la pression, la chaleur, il y a des tests. C'est une épreuve qui donne au galon, au Saint-Galon, pour pouvoir voir s'il est résistant. Mais les épreuves de notre foi, c'est des tests que Dieu fait pour lui et pour nous. Lui sert de ça pour nous raffiner, parce que là, on va réaliser qu'on pose pas toujours les tests. On va dire, Seigneur, j'ai encore besoin d'être changé. Je suis pas encore rendu à ne pas réagir dans les adversités. Donc, Dieu sert de cela pour te renforcer. Puis nous, en même temps, ça nous fait réaliser à quel niveau qu'on est rendu. Puis même si on a réussi à tout surmonter, mais il faut que tu restes debout après avoir tout surmonté. C'est ça que la Bible nous parle des armes du chrétien. C'est justement pour combattre contre le diable, pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il faut atteindre un niveau puis rester à ce niveau-là. Fait que tu vas avoir toutes sortes d'épreuves puis de tests qui sont voulus par Dieu, permis par Dieu. Dieu permet au diable, permet aux humains. Des fois, c'est des choses difficiles, on comprend pas pourquoi que ça arrive, mais Dieu nous fait passer des tests, mais ça a un résultat éternel. Ça nous dit, soyez pas étonnés, soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, pour vous mettre au test. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Soyez joyeux, soyez heureux, réjouissez-vous de souffrir avec Jésus. Jésus a souffert pour nous, mais nous, quand on a embarqué dans le chemin de la foi, maintenant on souffre avec Jésus et pour Jésus. On a part aux souffrances de Christ. C'est des épreuves à cause de notre foi, mais c'est des épreuves à cause du nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu est rentré en toi, tu vas commencer à vivre des combats, des conflits, des problèmes avec ceux qui t'entourent, ceux qui l'ont pas, l'Esprit. Puis ils te persécutent, puis ils rient de toi, puis ils vont te dire des paroles méchantes, puis ils vont essayer de t'enfarger dans ta vie. Tu vas vivre des épreuves à cause que tu es chrétien. Puis le diable vient t'attaquer dans tes biens, vient t'attaquer dans ta santé, vient t'attaquer dans toutes sortes de choses pour essayer de te décourager. Mais on a part aux souffrances de Jésus, puis il nous dit, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances de Jésus. C'est une preuve que l'Esprit de gloire habite en vous. Amen. C'est ce qui est dit dans un autre verset. La foi des la Bible nous parle d'Abraham en premier. Je vais vous parler d'Abraham vitement parce que j'en ai déjà parlé. Abraham, comment est-ce que Dieu a mis à l'épreuve la foi d'Abraham? Il le met à l'épreuve. Il a promis un fils, puis il lui a fait attendre longtemps avant d'avoir le fils. Puis une fois qu'il l'avait, que l'enfant était rendu peut-être à 12-14 ans, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Ouch! C'est une épreuve. Lui était rendu extrêmement âgé, puis s'il assassinait son fils, là, ça venait de s'éteindre. Il venait de perdre la bénédiction, puis lui, dans sa tête, il croyait que Dieu était pour même le ressusciter. Il l'a fait. Il dit, Seigneur, j'ai confiance en ce que tu me demandes. Je suis prêt à le faire. Je pense pas que Dieu va redemander de faire une chose semblable. Mais c'était pour tester Abraham parce qu'il voulait voir si son amour pour Dieu était assez grand pour offrir son fils. Parce que Dieu, dans son arrière-plan, il savait que lui, Dieu, son amour sera assez grand pour offrir le sien, son fils. Hébreux 11, 17, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. L'épreuve, c'est une épreuve que Dieu l'a mis à l'épreuve. C'est pas une chose par hasard qui est arrivée sans faire exprès puis que Dieu n'était pas au courant. Dieu permettait, puis il avait demandé de faire cette chose-là, puis c'était volontaire, c'est une épreuve qui venait de Dieu. Donc, dans notre vie, ça se peut qu'il y ait des épreuves, puis je dis pas que ça se peut, c'est officiel que beaucoup d'épreuves qu'on vit, c'est voulu par Dieu dans le but de fortifier notre foi, nous purifier dans notre foi, nous changer, nous transformer, nous apprendre à nous accrocher à lui. Et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses, parce que Dieu avait dit c'était lui qui était pour avoir les promesses, cet enfant-là, Dieu demande de l'assassiner. Mais il l'a fait, mais Dieu a arrêté cela à la dernière minute. Il a testé sa foi. La foi des apôtres a aussi été mise à l'épreuve plusieurs fois par des souffrances infligées dans leur ministère. C'est pas facile d'être dans le ministère comme chrétien, puis aller porter la parole. Même s'il y a des pays qui sont plus ouverts et qu'il n'y a pas de persécution, il y en a d'autres que c'est au prix de leur vie qu'ils partagent la parole de Dieu. Dans Actes 5:40, dans un exemple en passant, pour parler des apôtres, là, les Juifs, ils ont appelé les apôtres, c'est 40 et 41, ils ont appelé les apôtres puis les faire battre de verge. Je sais pas si ça vous tente de vous faire battre de verge, mais ça, c'est des coups de bâton. Des coups de bâton, là, puis pas un coup, des coups. Des fois, c'est 40 coups moins un. Ça veut dire 39 coups. Tau! Tau! T'as le dos exposé, là, puis il te frappe. Tau! À chaque coup que tu manges, ça fait mal. Imagine, t'en as mangé un, c'est pas pire, deux, trois. Quand t'es rendu à 35, 39, t'as hâte que ça arrête. Puis t'espères qu'il s'est compté et qu'il se répète pas dans ses chiffres. C'est comique, mais c'est pas comique. Il y a de quoi pleurer, puis brailler, puis crier des « ouch », puis être à terre, puis ensanglanter. Mais les apôtres, ils ont été battus de verre cette fois-là, d'autres fois, ils ont été lapidés, d'autres fois, ils ont été crucifiés, ils sont morts crucifiés. Des épreuves de leur foi pour leur ministère, pour les souffrances de Christ. Il n'y avait pas aux souffrances de Christ à ça. C'était des souffrances, des vrais combats, pas un petit mal de tête. « Oh, j'ai un petit mal de tête, je ne vais pas à l'église. » Bien plus pire que ça. Ça dit, il les fit battre de verge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Non seulement ils ont accepté les coups, mais ils étaient heureux d'avoir reçu ces coups-là. Ils vont dire, ça y est, ils sont revirés. Quand Dieu permet que tu subisses des outrages, des persécutions, des difficultés, des épreuves dans ta vie, C'est parce que Dieu te juge digne d'être capable de les supporter, puis Dieu est en train de te préparer un beau cadeau l'autre bord. Eux autres, ils le réalisaient, puis ils étaient dans la joie de venir manger une volée pour le Seigneur. Ils étaient dans la joie d'avoir subi cela. Puis d'avoir, ils disent qu'ils étaient dans la joie de ce que Dieu les a jugés dignes de subir ces outrages-là. Dieu les avait jugés. Ils sont capables. Ils vont passer à travers. J'étais avec eux, puis ils savent que j'étais avec eux. Puis ils ont tout accepté. Ils n'ont pas critiqué. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas rouspété. Ils sont sortis de là joyeux, quasiment en remerciant le Seigneur d'avoir subi ces choses-là. Faut que tu aies une foi affermie pour vivre cela. Puis c'est notre but. On veut tous devenir comme ça. Gloire à Dieu. Jésus lui-même a été pour nous l'exemple parfait de celui qui a enduré plein de souffrances. Quelque chose de grave, lui, qu'est-ce qu'il a enduré? Il a porté les péchés de l'humanité sur lui. Il a enduré pour la cause de son Père. Il est venu pour une mission, puis il a enduré les souffrances, des épreuves, des persécutions, de se faire cracher dans la face. Je sais pas si entre moi puis vous, là, t'es le créateur de l'univers. Une de tes petites créatures vient te cracher dans la face. Humainement parlant, une pichenote, hein, qui vient de disparaître. Il aurait pu faire ça, là, se défendre. Quand là, c'est assez, là, Seigneur, envoie 12 légions d'anges, quand il massacre tout le monde, il n'y a plus rien. Bon, fini. Bon. Il aurait pu. Mais il fallait qu'il passe de se rendre obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il nous aimait. Il nous a montré l'exemple à suivre. Dans Hébreux 12, 3, il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Quand, au lieu d'en arriver au point d'être découragé parce que vous vivez des épreuves, pensez à comment ce que Jésus, lui, les a subis, puis il a passé à travers, il les a acceptés, il aurait pu faire ça de même, il était délivré. Il a pas, s'est pas débattu, il a accepté, puis il a passé à travers. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Nous ne sommes pas supérieurs au Maître. On n'est pas supérieurs à Jésus. Si Jésus a passé par la souffrance, nous aussi, nous y passerons. Mais il y a des victoires. Faut pas oublier qu'il y a des victoires. Mais Jésus l'a dit à ses disciples dans Matthieu 10, 24. Le disciple, il est pas plus que le maître. Ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison y appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? On n'est pas plus que Jésus. Si Jésus a passé par les souffrances, nous aussi, il faut s'armer de cette pensée, on n'est pas supérieur. Des évangiles de facilité, ça n'existe pas. Si Jésus dit, suis-moi. Renonce à toi-même. Prends ta croix. On a une croix à porter. Lui, Jésus a porté la sienne. Moi, j'ai la mienne. Je peux pas porter votre croix. Vous pouvez pas porter la mienne. On a un cheminement que Dieu nous appelle à passer à travers. On prend notre croix. On suit Jésus. Puis Jésus nous a donné la meilleure croix qui est faite pour nous. Moi, j'ai la meilleure croix que je peux pas avoir. C'est celle que Jésus me connaît. Puis si je vis des choses parce qu'il m'a jugé digne, les subir. Si vous vivez des choses difficiles, Jésus vous a jugé digne de subir ces choses-là. C'est pour son nom que vous voulez suivre, c'est son nom que vous voulez servir, vous voulez marcher avec lui, il vous prépare la route, il vous guide. C'est pas que des malheurs, mais il y a des moments de souffrance. Notre foi et notre persévérance dans les épreuves encouragent les autres à persévérer. On est une équipe, on se supporte les uns les autres. Quelqu'un a de la difficulté, on l'aide dans son épreuve. Puis les chrétiens, il faut qu'ils apprennent à s'entraider. On est une équipe. On marche ensemble. Quelqu'un a un besoin, on est là pour l'aider. Puis il y a plusieurs choses qu'on peut vivre. Ça nous fait de la peine. On souffre avec celui qui souffre. On pleure avec celui qui pleure. Puis on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est ce que la Bible nous demande. Mais quand il y en a qui vivent des épreuves, puis qui obtiennent des victoires, puis que ça va bien dans leur vie, mais ça encourage les autres à continuer. Dans 2 Thessaloniciens 1-4, ça nous dit, l'apôtre Paul est en train de parler de l'église de Thessalonique, qui était dans de grands combats, des grandes souffrances, de graves problèmes dans cette église-là. Puis l'apôtre Paul, il lui dit, « Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. » Fait que les apôtres, ils étaient fiers de voir les gens de Thessalonique de persévérer dans leur épreuve difficile qu'ils étaient en train de vivre. Il rajoute, il dit, « On se réjouit, on se glorifie dans toutes les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Tu as des problèmes aujourd'hui. Tous les chrétiens qui l'entendent vont souffrir avec toi, puis ils vont voir ta persévérance, puis ça va les encourager, puis ils vont glorifier Dieu parce que vous allez marcher encore avec le Seigneur. C'est vrai que certaines personnes que dans leur affliction, dans leur souffrance, puis dans leur combat, dans leur épreuve, il y en a qui ils passent pas l'épreuve du temps, puis ils passent pas non plus l'épreuve des souffrances, puis ils abandonnent. La Bible en parle, faut pas s'étonner que des gens qui abandonnent le Seigneur, puis même à la fin des temps, ils parlent de l'apostasie, puis c'est déjà commencé, que le monde abandonne la parole de Dieu pour pouvoir pratiquer des choses que c'est écrit contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est de l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais il y en a qui ils passent pas le test dans leur vie, ils vont abandonner. Jésus en parle dans Marc 4:17, que les gens qui manquent de racines en eux-mêmes, ils n'ont pas de racines dans la parole, ils sont pas ancrés dans la foi, ils n'ont pas affermi leur foi pour grandir, ils passent pas le test. Ça nous dit, ils manquent de persistance, ceux qui n'ont pas de racines. De la persistance et de la persévérance, de continuer à passer à travers de l'épreuve en gardant la foi, puis de persévérer pour avoir la victoire, il en manque. Puis il lâche à moitié chemin. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il décide de lâcher. Il y en a du monde comme ça. Mais c'est pas ça qu'il faut suivre. La Bible parle aussi de d'autres qui subissent les mêmes épreuves, mais avec un cœur selon la parole de Dieu, bâti sur le roc. Si ton cœur... t'as mis ta foi en Dieu, puis tu décides de t'enraciner dans la parole, puis pour toi, il n'y a rien de plus important que de suivre le Seigneur, puis de garder sa parole. Mais si t'as cette foi-là, t'as le cœur selon Dieu, puis tu vas être capable de traverser n'importe quelle épreuve. Ça nous dit, ils vont porter des fruits avec persévérance parce qu'ils ont la foi des vainqueurs. Dans Luc 8:15, ça nous dit, en parlant encore de la semence qui est tombée dans de la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent puis portent du fruit avec persévérance. C'est ça la foi des vainqueurs. Mais il faut que tu aies un cœur ancré dans la parole de Dieu. Tu bâtis ta maison sur le roc, sinon tu passeras pas. Tes raisons de continuer ne seront pas là. Si tu connais la parole puis tu connais les promesses de Dieu, tu sais que ça va à peine de continuer à persévérer dans la foi, puis à pas lâcher. Même si tu te feras offrir de te faire assassiner ou renier Jésus, tu vas continuer à servir le Seigneur parce que tu as confiance aux promesses du Seigneur qui te dit après la mort, c'est la vie éternelle. Ceux qui abandonnent, c'est ceux qui n'ont pas cette assurance-là. Pourquoi qu'ils n'ont pas l'assurance? Parce qu'ils ne sont pas ancrés dans les promesses. C'est pas devenu assez fort en eux pour pouvoir les aider à passer à travers. Marchons, enracinons-nous dans le Seigneur, dans sa parole. Gardons les promesses, ça va nous garder, on va persévérer, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La foi nous amène à accepter l'épreuve, nous en réjouir, de grandir, puis ça nous amène dans la victoire. Dans Romains 5, les versets 3 et 4, ça nous dit, « Nous nous glorifions même des afflictions. » Lui, là, l'apôtre Paul, il était rendu qu'à chaque fois que ça allait mal, il était fier. Il était fier quand ça allait mal. C'est assez contraire à ce qu'on entend habituellement. Puis il savait que l'affliction, ce qu'il est en train de vivre comme affliction, ça produit de la persévérance. Ça va mal, mais je persévère. Et ça développe une force de caractère par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, mais c'est une force de caractère pour t'aider à passer à travers n'importe quelle épreuve. Mais il faut que tu sois ancré, il faut que tu sois enraciné, il faut que tu sois rempli de ce que Dieu te donne. Puis là, tu vas être capable de passer à travers, puis ça va aller mal, je suis fier que ça va mal, alors, regarde, je m'en viens encore plus fort. C'est comme des poids et haltères. Tu commences avec un petit 10 livres, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait. Puis plus que tu forces, 15 livres, 20 livres, à un moment donné, t'es rendu à 200 livres. Puis t'es fait à tes séries. T'aurais jamais été pensé qu'un jour tu lèverais 200 sur le bench press. Mais tu le fais le 200 sur le bench press parce que t'es capable, parce que tu t'es entraîné. Mais la foi, c'est ça. Faut que tu t'entraînes, spirituellement parlant, dans parole, à laisser le Seigneur te modeler, puis serre des épreuves pour te rendre de plus en plus fort. Il dit, on se glorifie même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance, puis quand tu as de la persévérance, c'est la victoire dans ton épreuve. Tu vas avoir des victoires. Tu vas passer à travers des épreuves que tu n'auras pas passées en temps normal. Puis tu vas avoir la victoire dans tes épreuves. Ça veut dire que tu vas t'en sortir. Dieu va préparer une porte de sortie. Tu vas avoir la victoire. Peu importe l'épreuve que tu es en train de vivre, Dieu il dit, c'est pas pour t'abattre que tu as cette épreuve-là. C'est pas pour te jeter à terre que tu as cette épreuve-là. Tu as cette épreuve-là pour devenir plus fort, puis de marcher encore plus par la foi, puis tu vas l'avoir, la victoire dans ta vie. Lâche pas. Cette victoire-là, c'est l'espérance, parce que tu vas être fier. Tu vas avoir passé par-dessus, puis ça aura une grande confiance en dedans de toi, une confiance que Dieu est avec toi, puis que Dieu t'aide dans ce que tu traverses. Merci, Seigneur. Dieu nous a-t-il pas dit que lorsqu'on aime Dieu, que toute chose concourt à notre bien? Il nous le dit dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, si tu as reçu l'appel de Dieu dans ta vie, tu es appelé à l'accepter, puis à le recevoir, puis à marcher en communion avec lui, tu as l'appel, mais tout ce que tu vas vivre, les bonnes affaires comme les pas bonnes, c'est pour ton bien. Dieu, il a ta vie en son contrôle, tout ce que tu es en train de traverser, c'est déjà vu par Dieu, prévu par Dieu, puis il donne aussi le moyen de t'en sortir, il va te donner la force de passer à travers, puis il va te donner la victoire. Tout va être pour ton bien. Aie confiance en Dieu. Il mène ta vie, puis il veut faire de toi quelque chose de beau. Les récompenses éternelles sont réservées à ceux qui persévéreront par la foi dans les souffrances pour le nom de Dieu. Dans Luc 22, 28 à 29, c'est Jésus qui nous parle et dit, « Vous, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Quand tu fais partie de l'équipe qui marche avec le Seigneur, il dit, « Tu as persévéré avec lui dans ses épreuves. Tu marches avec le Seigneur, fait que ta vie est au Seigneur. Tes épreuves que tu vis, c'est les épreuves du Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Tu es en train de passer à travers tes épreuves. Mais il dit, c'est pour ça, il dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. Vous avez gardé son nom, puis vous l'avez servi. Vous avez marché avec lui. Mais il dit, je dispose du royaume en votre faveur. Le royaume est pour nous, ceux qui combattent puis qui persévèrent dans les épreuves du Seigneur. Voulons-nous marcher avec le Seigneur? On veut-tu persévérer dans le Seigneur? On réalise-tu que les épreuves, c'est là pour nous modeler, pour nous faire grandir, puis nous renforcer, puis que là, accrochons-nous à la parole de Dieu, passons à travers les épreuves une par une, et gagnons nos victoires. Puis pourquoi qu'on va gagner nos victoires? Parce que le Seigneur est au-devant de nous. Nous sommes l'armée de Dieu. Puis devant l'armée de Dieu marche le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui rouvre les portes, c'est lui qui les ferme. Laissons-nous guider par lui, puis nous allons rentrer dans les plus belles choses qu'on pourra pas avoir, les choses qui sont éternelles.